Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Avec aujourd'hui
Michel Husson.
Michel Husson, je vous ai invité aujourd'hui pour parler du sujet qui me préoccupe en réalité le plus et sans doute un de ceux qui peuvent justifier le titre de cette émission, c'est-à-dire de voir l'influence de l'économie sur la vie des gens de tous les jours. C'est justement le sujet du chômage ou de l'emploi si on veut regarder les choses d'une façon positive. Le point qui m'a le plus, enfin qui m'étonne le plus, on pourrait presque dire de moi-même, c'est que j'ai jamais rien compris à ce qui s'était passé dans la longue descente qu'il y a eu vers le chômage. Vers 73-79, au moment des chocs pétroliers, on a pu comprendre, enfin le public a pu comprendre que le chômage était dû justement à une hausse des prix du pétrole. Et puis après, on a comme perdu pied dans la compréhension de ce qui se passait au niveau du chômage. Et depuis, j'ai toujours pas compris ni pourquoi il y avait eu autant de chômage pendant une période, ni pourquoi il y a eu une reprise depuis quelque temps. Donc je compte sur vous pour m'expliquer des choses. Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche Économique et Sociale. Vous êtes notamment connu pour avoir écrit « Avenue du plein emploi » en collaboration avec Thomas Coutreau, qu'on peut trouver aux éditions des Mille et Une Nuits. Et vous ferez paraître donc à la rentrée un livre qui s'appellera « Le grand bluff capitaliste ». Diable. Est-ce que vous pouvez me donner donc quelques explications devant ce grand mystère qu'est la descente vers le chômage ?
C'est un grand mystère, c'est un grand sujet de controverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'explications concurrentes, il y en a qui ont disparu de la circulation. Donc moi je vais proposer la mienne, bon, qui n'est pas forcément majoritaire ou dominante. L'idée, je crois, le point de départ, c'est le suivant, c'est toute société, enfin toute économie qui se développe, bénéficie de gains de productivité. C'est-à-dire que la capacité à produire en un temps de travail donné une grandeur de richesse, de biens et de services augmente dans le temps. Bon, ça, c'est un phénomène qui est plutôt positif. C'est ce qu'on peut appeler, enfin, c'est la base, disons, d'un certain progrès économique. Alors ensuite, tout se complique quand il s'agit de répartir ces gains de productivité. Et là, l'idée générale, c'est de dire le dérapage des années, du début des années 80, parce qu'en fait, avant, il y a eu une phase de crise qui aurait pu être résorbée, mais le vrai dérapage, c'est en fait une modification assez substantielle dans la manière dont sont répartis ces gains de productivité face à effectivement un élément de crise, c'est-à-dire une économie qui se détraque par certains côtés. Et donc, depuis 80, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que les gains de productivité, il y a trois manières de les employer. Et la répartition de ces trois manières des employés a complètement changé. La première manière, c'est de distribuer du pouvoir d'achat. Donc, on produit plus, on est plus productif, et donc tout le monde peut en bénéficier, tous les salariés, sous forme de progression du pouvoir d'achat. Depuis 80, il s'est produit le fait qu'on a gelé pratiquement les salaires. Bon. Deuxième utilisation, c'est la réduction du temps de travail. C'est-à-dire, on peut produire plus, donc on va produire un peu plus, mais surtout, on va réduire le temps de travail. Ça a été l'utilisation, historique du progrès sous forme de gains de productivité, à savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à mi-temps par rapport à nos arrière-grands-parents d'il y a un siècle. Non, et là encore, ça a été bloqué. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, en 82, on est passé aux 39 heures, et depuis, en céphalogramme plat, on n'a plus réduit le temps de travail, quasiment. Bon. Et à partir de ce moment, tout s'est déversé, en somme, sur la troisième manière de créer, d'utiliser les gains de productivité, à savoir d'augmenter le profit, c'est-à-dire la part de cette valeur créée qui ne va pas aux salariés. Bon, alors on pourra revenir là-dessus, mais l'idée de départ, c'est de dire à partir du moment où vous continuez à faire la productivité sans réduire le temps de travail, vous créez une pression à la baisse de l'emploi et vous détraquez cette espèce de réglage assez compliqué et assez minutieux qui fait qu'avec, compte tenu de la croissance, de l'évolution de la productivité, de la durée du travail, vous créez des emplois en nombre suffisant ou pas. Et c'est ça qui s'est déréglé.
Il y a un petit quelque chose que je ne comprends pas, c'est que pendant ce temps dans lequel le chômage croissait à une vitesse assez hallucinante, en tous les cas avec des proportions assez hallucinantes, on continuait de produire cependant plus, et finalement la richesse globale de la France, par exemple, était plus importante que précédemment. Au moment
oui,
où il
ça c'est un vrai. Enfin, si on compare, enfin c'est ça qu'il faut faire, c'est comparer ce qui se passe aujourd'hui, enfin pour la période où le chômage a monté le plus, en tout cas, et puis les périodes, disons des années 60 où ça marchait bien, où il y avait un quasi plein emploi. Or, il y a deux différences. Il y a une première différence qui est paradoxale, c'est que les gains de productivité progressait plus vite dans les années 60, et donc ça invalide l'explication en termes de progrès technique, gain de productivité qui réduirait, enfin c'est un peu la thèse de la fin du travail. Ça tient pas la route, cette explication-là.
Là, vous faites allusion au fait qu'un certain nombre de personnes pensent que s'il y a du chômage, c'est à cause du progrès technique.
Voilà.
C'est parce que maintenant on n'a plus besoin d'ouvriers pour construire une voiture, en tous les cas on en a besoin de moins. C'est
oui,
ça qui expliquerait le chômage.
Le fait qu'on en ait besoin de moins, c'est les gains de productivité. Mm-hmm. Or, ces gains de productivité, paradoxalement, progressent plutôt moins vite aujourd'hui qu'ils le faisaient dans les années 60 où il y avait du plein emploi. Donc, mm-hmm. ça veut dire que le lien n'est pas direct. Bon, il y a effectivement un lien, il y a des gains de productivité, mais c'est le fait qu'ils soient mal répartis, disons, utilisés, qui déclenche la montée du chômage. C'est pas leur présence en tant que telle. Parce que sinon, il y aurait dû y avoir 100 fois plus de chômage dans les années 60. Or, c'est le contraire qu'on constate. Et l'autre volet, c'est qu'effectivement, on est dans une société qui est plus riche, c'est-à-dire où la croissance a continué de se développer, mais elle a été répartie d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on est passé à une réduction du temps de travail, parce qu'on est forcé de réduire le temps de travail. Malgré tout, quand il y a des gains de productivité, on ne peut pas produire encore plus tout le temps. Et cette réduction du temps de travail, elle est régressive, c'est-à-dire que le chômage est une forme, disons, limite de réduction du temps de travail. On décide, par des procédures compliquées, on dit que 10% de la société est inemployable. Et donc, ils seront exclus de l'emploi quasiment par définition. Et ensuite, on va créer plein de situations où on est en demi-emploi. C'est-à-dire, les femmes, on va leur imposer de temps partiel. Les jeunes vont être dans des situations de galère, de contrats à durée déterminée ou à travail intermittent. Donc, on va multiplier toutes ces situations qui consistent à baisser le temps de travail, mais sous des formes socialement régressives, parce qu'on refuse la voie qui est, disons, équitable, qui est celle du partage des gains de productivité, parce qu'en réalité, on défend une forme de partage des richesses qui est défavorable aux salariés. Que la grande affaire, c'est le transfert de richesses vers d'autres utilisations que la masse salariale prise très globalement.
Mais est-ce que le transfert d'une partie de la richesse créée vers les détenteurs de capitaux, donc est-ce que la hausse des profits que font les détenteurs de capitaux n'était pas une nécessité absolue à une certaine période, ce qui peut-être pourrait justifier ce choix qui a été fait?
Alors, ce qui est vrai, c'est que la variable clé là-dedans, c'est le taux de profit, c'est-à-dire la rentabilité, qui avait baissé au moment de la crise. Et donc, le passage au chômage, la baisse des salaires, en fait, parce que c'était ça qui était visé, sous prétexte, à l'époque, de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire contre une montée trop rapide des prix, en fait, a cherché à repartager la valeur ajoutée au profit du profit, si on peut dire, parce que c'est comme ça. Alors ensuite viennent les explications économiques. Alors la principale explication économique était ce qu'on appelait le théorème de Schmitt, c'est-à-dire qui consistait à dire les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc on peut dire qu'on est arrivé après-demain. Et ce qui a manqué dans le fait qu'on a rétabli, on a effectivement rétabli les profits, ça personne ne le conteste, enfin absolument personne ne le conteste. Mais l'argument qui était donné, c'est-à-dire, grâce à ce rétablissement du profit, on investira plus et on créera des emplois nouveaux dans les nouvelles technologies, par exemple. Bon. Et cet argument-là, il tombe quand on constate ce qui se passe, à savoir que le taux d'investissement, c'est-à-dire la proportion de cette valeur ajoutée qui va en investissement, fluctue, parce que ça a toujours fluctué en fonction du cycle économique, mais ne monte pas. Donc les salaires ont baissé, mais n'ont pas conduit à monter l'investissement. Donc ce qui a monté, c'est autre chose.
Algré FM 93.1 et donc des sous et des hommes avec Michel Husson, qui nous a laissé dans une expectative épouvantable. Je synthétise ce que j'ai compris jusqu'à présent. Le chômage a augmenté, ça je m'en étais aperçu. Le profit a lui aussi augmenté, je le soupçonnais. Et normalement, la hausse de ces profits devait permettre de financer des investissements. Or, il n'y a pas eu d'investissement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là?
Mais ça veut dire qu'il faut quitter un raisonnement binaire où il y a le bon profit qui s'investit, les salaires qui sont distribués aux salariés. Parce qu'en fait, la répartition doit être analysée au moins en une formule ternaire, qui est il y a le profit qui s'investit, mais il y a aussi le profit qui ne s'investit pas, c'est-à-dire les revenus financiers. Donc la grande caractéristique des années 80 dans les répartitions du revenu, c'est que la part des salaires a baissé, la part de l'investissement est restée à peu près égale, et que quelque chose d'autre a monté, c'est donc ces profits financiers qui sont distribués aux détenteurs d'actifs financiers qui ensuite décident soit de les recycler, mais comme l'investissement n'a pas augmenté, ce n'est pas cette partie-là qui est la plus dynamique, et donc ils les consomment. Et donc ce qu'on observe aussi, mais qui va complètement de pair, c'est une montée des inégalités de revenus. C'est-à-dire que vous avez les détenteurs de salaires quand tout va bien, ont un maintien de leur pouvoir d'achat, et puis les détenteurs de revenus financiers augmentent beaucoup plus rapidement avec la croissance de la bourse, des distributions de dividendes.
Ouais, on revient peut-être un petit peu en arrière. C'est quoi des revenus financiers?
Les revenus financiers, c'est principalement les dividendes, les plus-values boursières ou les intérêts, mais les intérêts transitent souvent par les banques et ensuite sont reversés aux particuliers. Mais le cheminement, c'est une partie, disons, de profit, encore une fois, qui n'est pas investi. Et donc, c'est un élément tout à fait fondamental, parce que ça veut dire que cette partie-là n'est pas légitime, au sens où on peut dire que si le profit s'investit, on peut lui reconnaître une certaine légitimité. Et d'autre part, est la clé d'une politique d'une répartition alternative. C'est-à-dire que si on avait, si on pouvait mordre sur cette partie-là, c'est ce qui permettrait d'augmenter les salaires, la part des salaires, sans toucher à ce qui doit aller normalement à l'investissement, ce qui est raisonnable, parce que personne ne préconise de réduire à zéro l'investissement.
Mais les revenus financiers, ils partent pas complètement dans la nature. Si on ne sont pas réinvestis à nouveau en bourse, c'est-à-dire que ça ne sert pas à racheter à nouveau des actions et finalement à créer de l'emploi.
Mais il y a une partie qui tourne comme ça, mais je crois que la question la plus intéressante, c'est de voir qu'on est dans un système qui avait été un peu décrit par Malthus, qui est connu pour la démographie, mais qui faisait une apologie des riches, quoi. Il disait la consommation des riches est ce qui permet de créer des emplois pour les pauvres. Et on est un peu dans ce système. C'est-à-dire, c'est la consommation des riches qui tire la consommation des ménages. Parce que il faut voir le revenu des ménages, la partie qui est liée au salaire progresse peu et même baisse en proportion du revenu national. Et en même temps, la consommation des ménages, bon an, mal an, augmente, tire la croissance, qui n'est pas formidable d'ailleurs pour cette raison-là, mais continue à augmenter. Donc, le mystère qui consiste à avoir 0% de progression du pouvoir d'achat de la masse salariale et 3% ou 2-3% de la consommation, ce mystère ne peut être réglé que parce qu'il y a d'autres, une autre demande non salariale qui tire la consommation. Et c'est la fonction, en somme, de ces inégalités, c'est de créer une demande qui remplace la demande salariale qui est défaillante. Mais malgré tout, ça crée dans l'ensemble un rythme de croissance qui est plutôt plus bas que ce qu'il y aurait avec une distribution de la demande salariale. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a eu un peu plus de croissance, et qu'il y a eu aussi croissance de la consommation des ménages, y compris dans la partie salariale.
Mais justement, allons-y directement vers cette montée de la croissance et ce retournement vers moins de chômage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La logique s'est inversée, on voulait plus faire de profit, on voulait plus distribuer aux riches. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il s'est passé qu'on a suivi de fait une politique qui n'était pas la politique néolibérale qui est préconisée, mise en application au niveau européen, dans le cas du traité de Maastricht ou d'Amsterdam. Et qu'on a, on a abandonné, on a tourné le dos sans le vouloir vraiment, à deux ou trois préceptes de base de ce dogme, on peut dire, néolibéral. Alors, première idée, il y a eu les aspects monétaires qui ont joué beaucoup, à savoir que le dollar a été surévalué, donc a augmenté par rapport à l'ensemble des monnaies européennes, avant même que l'euro se fasse. Et bon, c'est l'espèce de surprise. Tout le monde s'attendait à l'euro, que l'euro soit une monnaie relativement forte. Et elle ne cesse de baisser depuis qu'elle a été mise en place.
Bon. Et c'est quoi l'intérêt de...
Alors l'intérêt, l'aspect positif, c'est pour ça que c'est un peu curieux de considérer ça comme un véritable drame, c'est que l'aspect positif, ça donnait un coup de fouet absolument considérable aux exportations de l'ensemble de l'Europe. Et par exemple, ça explique pourquoi un peu le miracle Jospin. Jospin a été élu, enfin le gouvernement Jospin est arrivé au pouvoir en juin 1997, et c'est à peu près le moment où le dollar a augmenté brutalement de 15% par rapport aux monnaies européennes, et où les exportations européennes ont été dopées. Donc l'espèce de concomitance est lié un peu, enfin un peu une coïncidence, mais on voit bien que c'est l'abandon du dogme consistant à rechercher une monnaie forte qui a dégagé des marges de croissance et donc d'emploi importantes. L'autre aspect, c'est le fait que, il y a d'autres aspects, la politique budgétaire qui a été un peu moins rigide qu'elle était auparavant, mais l'autre aspect qui a joué beaucoup, c'est en France la création d'emplois liés aux 35 heures sous des formes pas parfaites, mais qui ont quand même commencé à jouer sur la création d'emplois. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la part des salaires a cessé de baisser dans la plupart des pays européens. Donc, par rapport aux années 80, c'est une inflexion. Et que ce qu'on voit aussi, c'est que la consommation des ménages a repris et assuré un certain dynamisme. C'est le discours qu'on a entendu qui était assez comique. C'était un discours qui consistait à tout ce discours sur la confiance des ménages. Hein. Les ménages n'auraient pas confiance, et donc il y a un indicateur comme ça de confiance. Mais quand on regarde comment varie l'indicateur de confiance, et bien distribuer du pouvoir d'achat aux ménages, et vous verrez tout de suite qu'ils auront plus confiance et qu'ils se mettront à consommer plus.
Ça, c'est sûr. Des sous et des hommes est un sujet nettement moins gai que le titre que l'on vient d'écouter, qui était donc plutôt le thème du chômage. Alors il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire que l'émission porte plutôt sur l'emploi, et ça serait même carrément bien si on disait que ça portait sur le plein emploi. Alors on y va d'un pas allègre, dans moins de 10 ans on y sera.
Ben, oui et non, mais en tout cas, ce qui a changé, c'est qu'il y avait 3-4 ans, le plein emploi était considéré comme un truc de ringard, des gens qui n'avaient pas compris que c'était la fin du travail, etc., qu'il fallait la pleine activité, à la limite. Et le climat, au moins, a changé grâce à la reprise, c'est-à-dire que, de nouveau, les politiques, il y a eu un rapport officiel, Jospin a dit que c'était à l'horizon 2010, c'était un objectif jouable, a reposé la question du plein emploi. Donc, ça pose plusieurs questions, mais rapidement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que, effectivement, on est retourné un peu vers le plein emploi depuis 2-3 ans, mais qu'on l'a fait d'une certaine manière à l'encontre des orientations réelles de politique économique, et que dès que le retournement de conjoncture, qui est assez net maintenant en Europe, enfin dans le monde en général, va se faire sentir, on va revoir apparaître les dogmes néolibéraux qui vont casser, disons, le chemin qui a été parcouru, et que le risque est grand de voir la courbe du chômage s'inverser, etc.
Dogme néolibéraux, c'est-à-dire?
Alors, le premier, c'est le coût du travail, c'est-à-dire que en toile de fond, mais malgré tous les démentis qu'ils ont reçus, il y a l'idée que le chômage est lié au fait que le salaire est trop élevé, donc décourage l'embauche, etc.
Surtout en France, bien entendu, c'est ce qu'on entend.
Surtout en France, mais c'est un argument qu'on rencontre partout, qui est fabriqué, disons, par des institutions internationales comme l'OCDE. Mais malgré le fait que ce qui s'est produit sous nos yeux est un démenti, que bon, dans certains textes, ils sont même obligés de le reconnaître, il va y avoir une logique consistant à dire, avec tous les débats sur le taux de chômage d'équilibre, qu'on a fait la partie la plus facile et que maintenant, réellement, on ne pourrait plus créer de nouveaux emplois qu'en baissant à nouveau les charges, notamment sur les bas salaires, sur les emplois peu qualifiés. Donc il y a ce discours qui est très fort.
Et ça peut, à la limite, on peut très bien avoir là aussi se dire, bah, tant mieux si les charges baissent sur les bas salaires. Quel est le problème?
Ben, le problème, c'est au niveau de la sécurité sociale. C'est-à-dire, ça met en place une espèce de logique qui consiste à appauvrir la sécurité sociale sous prétexte de créer des emplois, d'ailleurs qu'on voit pas venir par ce biais. Et ensuite, ça a des répercussions, notamment, par exemple, sur le système des retraites. C'est-à-dire, c'est en appauvrissant la base sur laquelle fonctionne le système par répartition qu'on va vouloir créer la capitalisation des fonds de pension et ensuite justifier le fait qu'on distribue plus des salaires, mais des revenus financiers aux salariés, avec tous les éléments de risque que ça comporte, maintenant que la bourse augmente plus. Donc il y a un vrai danger. L'autre danger, c'est de dire, bon, la RTT, la réduction du temps de travail, était imposée d'une certaine manière au gouvernement, c'était pas dans son programme initial, il s'en est saisi à un moment où il avait besoin d'avoir quelque chose dans son programme, il l'a appliqué en le vidant de son contenu, et maintenant le grand risque, ça va être de limiter au minimum l'extension, alors qu'il faudrait faire absolument le contraire, c'est-à-dire l'étendre aux petites entreprises de moins de 20 qui sont théoriquement concernées au 1er janvier prochain, mais dont tout le monde cherche, enfin tout le monde, en tout cas le MEDEF et Fabius cherchent à les en dispenser. Le rapport Pisani-Ferry sur le plein emploi dit explicitement qu'il faut limiter les frais de ce côté-là. Et on va voir revenir des politiques budgétaires restrictives et des politiques salariales restrictives, c'est-à-dire qu'on va recréer les conditions de cette espèce de faible croissance et de retour du chômage qu'on avait connu tout au long une bonne partie des années 80 et 90. Mmh. Donc il y a un vrai enjeu, mais il y a un élément nouveau qui est l'histoire des licenciements dans les entreprises qui font du profit, qui ont modifié assez
Michelin,
profondément.
Danone,
voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui est presque de l'ordre moral, c'est-à-dire que aucune explication économique ne tient devant le fait qu'une entreprise, enfin plusieurs entreprises qui font du profit, les entreprises se portent bien en ce moment, et continuent à licencier même dans les périodes où ça va bien. Parce que si c'est injustifié, dans ces périodes-là, et clairement, il y a eu des sondages qui ont montré que c'était vraiment majoritaire, même des mots d'ordre presque gauchistes, comme interdiction des licenciements devenait majoritaire. Et cet acquis-là va peser si la situation se retourne. C'est-à-dire que cet argument, cet argument du genre, on est obligé de le faire parce que l'économie, va être regardé de très très près, et je veux dire, le rapport de force un peu idéologique sera beaucoup moins en défaveur des salariés qu'il était auparavant, parce qu'ils ont fait l'expérience que même de toute façon, les concessions sont sans fin. Donc la vraie question, c'est de refuser une certaine logique économique où tout s'ajuste sur l'emploi.
Mais écoutez, je vais être obligé de vous remercier dès à présent d'être venu répondre à mes questions et de me servir en plus de ça comme sur un plateau la transition pour ma future émission de la semaine prochaine qui normalement devrait porter justement sur les licenciements boursiers. Merci d'être venu et pour les auditeurs la semaine prochaine. Vous pouvez nous écrire à Radio Aligre, je dis toujours Radio Aligre, hein, c'est ce qui est quand même un peu stupide, c'est Aligre FM depuis un certain nombre d'années je crois, au 42 rue de Montreuil en spécifiant des sous et des hommes.